Chapitre 16. Cold Case. Tempus tantum nostrum est. Le temps seul nous appartient. Sénèque. 1. Les éclats n'avaient pas leur place à l'Oyster Bar, et quelques habitués me lancèrent un regard réprobateur. Je tentai de maîtriser mon exaspération. Ces deux patrouilleurs, Powell et Gomez, ils ont menti, c'est certain.
Je parierais pas forcément là-dessus,
répondit Mark en étalant un peu de beurre sur un morceau de pain de seigle. « Explique-moi. » Il haussa les épaules.
« Pourquoi les flics mentiraient-ils? Dans quel but ?»«
Ils sont peut-être jamais rendus sur les lieux. À l'époque, il y avait de nombreux appels fantaisistes qui... » Il leva la main pour m'interrompre.
Le message laissé par Florence était suffisamment crédible pour être pris au sérieux. Cette procédure d'intervention en cas d'agression violente est très codifiée et personne ne se serait risqué à ignorer un tel appel à l'aide. Et même dans le cas où ils auraient bâclé leur inspection, les deux flics auraient plutôt affirmé que les rideaux étaient tirés. C'était beaucoup moins risqué pour eux que cette déclaration qui les engage.
À moitié convaincu, je sous-pesais ces arguments avant de demander « Donc, quelle est ton explication ?»«
J'en ai malheureusement aucune »,
répondit le flic en finissant son pain. Puis Marc dégusta ses coquillages tout en continuant la lecture des extraits du rapport de police que m'avait remis Gladys. Son anglais était convenable, mais il me sollicitait souvent pour des termes techniques ou des tournures de phrases ambiguës. À deux reprises, il revint sur un détail qui m'avait échappé, ou plutôt dont je ne voyais pas la pertinence. Isaac Landis, le gérant d'un magasin de spiritueux situé au 2E 132e rue, avait affirmé avoir vendu une bouteille de vodka à Joyce Carlyle ce fameux samedi 25 juin à 14h45. Je pris la parole. On sait donc avec certitude que Joyce était bien dans le quartier et qu'elle était encore vivante à cette heure-là.
Mais à part ça...
D'un geste de la main, Karadec me demanda de placer le magasin en question sur le plan. Il était distinct d'à peu près 700 mètres du 6 Bilberry Street, la maison de la mère de Claire.
« J'ai du mal à me représenter les lieux »,
avoua-t-il en sortant de sa réflexion.
« Tu sais que j'ai jamais mis les pieds à Harlem. »
« Vraiment ? La dernière fois que t'es venu à New York, c'était quand ?» Il siffla entre ses dents.
« C'était avec Élise et la petite, lors des vacances de Pâques en 2001, quelques mois avant les attentats. »
Je lui tendis mon téléphone, sur lequel j'avais stocké toutes les photos du quartier que j'avais prises l'après-midi de la veille en allant à la rencontre d'Ethel Faraday et des deux sœurs Carlyle. Il les regarda méthodiquement, zoomant grâce à l'écran tactile et posant de nombreuses questions.
« Et ça, c'est où ?»
Il pointa un panneau surmontant une échoppe.
« Discount Wine and Liquor, since 1971. »
À l'intersection de Lennox et de Bilberry Street.
« Donc tout près de la maison de Joyce, n'est-ce pas ?»«
Ouais, à 20 mètres. » Les yeux de Karadec brillaient. Il était certain de tenir quelque chose, même si je ne voyais pas trop quoi. Il posa la main sur mon avant-bras.
« Si Joyce avait envie d'un petit remontant, pourquoi parcourir presque un kilomètre à pied pour acheter sa bibine alors qu'elle avait un magasin de spiritueux devant sa porte ?»
Cet élément me paraissait anecdotique. « La boutique était peut-être fermée, » hasardai-je. Il leva les yeux au ciel.
« Un samedi après-midi, tu rigoles ? On est aux États-Unis, pas en France. Ils n'ont pas attendu la loi Macron pour ouvrir leur magasin le week-end. »
Ouais. Je n'étais toujours pas convaincu, mais Karadec n'en démordait pas. Alors que je fixais le plan déplié sur le comptoir, une confidence que m'avait faite Angela Carlyle me revint en mémoire. Ce fameux week-end avec Gladys, elles étaient en déplacement à Philadelphie pour rendre visite à leur mère. Donc leur maison était vide. Un frisson d'excitation me parcourut l'échine. « J'ai trouvé !» annonçai-je à Marc. Devant son air étonné, je développai mon propos. Pour une raison que j'ignorais encore, Joyce avait préféré recevoir son visiteur chez ses sœurs plutôt que chez elle. Mais elle n'avait pas jugé utile d'en informer Florence. Cela expliquait tout. Qu'elle soit en apparence allée chercher de la vodka si loin, et surtout que les flics n'aient rien trouvé de suspect chez Joyce. Tout simplement parce que la journaliste leur avait donné, sans le savoir, une adresse erronée. Emporté par mon exaltation, j'eus un mouvement brusque et renversai mon verre sur le comptoir.
Oh, quel maladroit je fais !
Le pied du verre s'était brisé sous le choc. L'alcool avait éclaboussé mes vêtements, dessinant une tache au milieu de la chemise. J'humectai une serviette, mais j'empestai le Sancerre. « J'en viens, » dis-je en descendant de mon tabouret. Je traversai la salle pour aller jusqu'aux toilettes, mais comme elles étaient occupées, je patientai devant la porte. À ce moment-là, mon téléphone sonna. C'était Marieke. Elle m'appelait affolée parce que Théo s'était fait une bosse en tombant. « Je préfère vous prévenir. lança-t-elle en me refilant la patate chaude. En arrière-fond, j'entendais geindre Théo. Je demandai à lui parler et en quelques secondes, je compris que le petit homme n'avait rien de grave. « Comédien, va !» Ce Machiavel des bacs à sable tentait seulement une gentille manœuvre pour se faire plaindre et voler des bisous à sa nounou. Déjà, la douleur était oubliée, et tandis que Théo me racontait par le menu ce qu'il avait mangé, j'observais de loin Karadec. Il fallait reconnaître au flic cette qualité. Il avait le pouvoir d'inspirer confiance aux gens. À cet instant, comme s'il était pote avec lui depuis toujours, il discutait gaiement avec notre voisin de table, un étudiant en art portant d'épaisses lunettes en écaille qui avait crayonné sur son carnet pendant tout son repas. Je plissai les yeux. Marc venait de lui emprunter son téléphone. Il m'avait prévenu que son vieux Nokia ne fonctionnait pas aux États-Unis. Le flic n'appelait personne. Il surfait sur Internet. Pour chercher quoi ? La porte des toilettes s'ouvrit. Je m'y engouffrai et essayai de réparer les dégâts à coups de savon liquide, d'eau tiède et d'air chaud pulsé par le séchoir électrique. Lorsque je ressortis, je sentais le vétiver de Java et j'avais un peu moins l'air d'un ivrogne imbibé de vinasse. Mais Marc n'était plus assis au comptoir. « Où est l'homme qui m'accompagnait ? » demandai-je à l'étudiant. « Je savais pas que vous étiez en couple. Petit con. Où est-il ? » ?»« Il vient de partir, » répondit le binoclard. Quoi ? » Le jeune désigna la grande baie vitrée de l'Oyster Bar. J'étais sidéré. « Il a laissé ça pour vous, » me dit l'autre en enfilant son blouson. Il remonta sa fermeture éclair et me tendit notre plan de New York, au dos duquel Karadec avait griffonné quelques phrases d'une écriture compacte. « Raph, pardonne-moi de t'abandonner, mais je dois vérifier quelque chose. Peut-être absurde. Si c'est un cul-de-sac, autant que j'y aille seul. Poursuis l'enquête de ton côté. T'as trouvé ta méthode. Enquête comme tu écris. Continue à traquer le fantôme, le ghost de tous les Carlyle. Je crois que t'avais raison. Toutes les vérités du monde prennent toujours racine sur les terres de l'enfance. Je te donne des nouvelles dès que j'en ai. Embrasse mon copain Théo pour moi. Marc. » C'était à peine croyable. Avant que l'étudiant s'en aille, je le rattrapai par la manche. « Pourquoi voulait-il utiliser votre téléphone ?» Le gamin sortit son portable de sa poche. « Regardez-vous-même. » Je lançai le navigateur qui s'ouvrit sur le site des White Pages, les pages blanches, l'annuaire téléphonique américain. Marc avait cherché un numéro ou une adresse, mais le site n'avait pas gardé sa requête en mémoire. Je rendis l'appareil à son propriétaire et restai un instant groggy, malheureux comme un enfant, avec le sentiment d'avoir été abandonné. Pourquoi tous les gens qui comptaient dans ma vie finissaient-ils par s'éloigner de moi ? 2. L'ex-détective Mae Soo-yoon m'avait donné rendez-vous dans les locaux du Transparency Project, situé au sein d'une fac de droit, la Manhattan University School of Law, dans le quartier de Washington Square. Le bureau dans lequel un assistant me demanda de patienter, une pièce au mur de verre, surplombait la salle de lecture de l'université. En ce début d'après-midi, la bibliothèque était pleine à craquer. Les cours avaient repris la semaine précédente, et derrière leurs livres et leurs écrans d'ordinateur, les étudiants travaillaient dans une atmosphère à la fois studieuse et détendue. Devant ce cadre propice à l'étude, je repensais à la fac pourrie dans laquelle j'avais passé ma maîtrise. Amphi bondé, cours soporifique, prof politisé et je m'en foutiste, bâtiment des années 1970 aussi moche que décrépit, absence d'émulation, ambiance plombée par le chômage et les perspectives bouchées. Certes, la situation n'était pas comparable. Les étudiants inscrits ici payaient leur enseignement au prix fort, mais sans doute en avaient-ils au moins pour leur argent. C'est l'une des choses qui me révoltait le plus en France. Comment, depuis des décennies, la société pouvait-elle se satisfaire d'un système éducatif aussi figé, aussi peu stimulant et au bout du compte, aussi inégalitaire derrière les discours de façade ? Chassant ces pensées moroses, que je savais en partie provoquées par la défection de Karadec, je profitai de ce moment pour parcourir sur l'écran de mon téléphone toute la documentation que j'avais téléchargée lors de mes recherches matinales. Fondée au début des années 1990 par Ethan et John Dixon, un couple d'avocats fervents militants contre la peine de mort, le Transparency Project venait en aide aux possibles victimes d'erreurs judiciaires. Pour mener ses propres contre-enquêtes, l'organisation avait dès l'origine noué des partenariats avec plusieurs universités de droit du pays. Sous la houlette d'avocats confirmés, des étudiants avaient donc commencé à rouvrir d'anciennes affaires criminelles
dans lesquelles des individus souvent défavorisés avaient vu leur vie brisée à cause d'enquêtes bâclées et de procès expédiés par des tribunaux surchargés. Au fil des années, la banalisation des tests ADN, y compris dans le cas d'affaires ayant déjà été jugées, avait mis au jour un nombre effrayant d'erreurs judiciaires. L'opinion publique américaine avait alors découvert que sa justice n'était pas seulement inéquitable, mais qu'elle était aussi devenue une machine à condamner en masse des innocents. Ainsi, ce n'étaient pas des dizaines, mais des centaines, voire des milliers de citoyens qui, sur la base parfois d'un seul témoignage, s'étaient retrouvés emprisonnés à vie ou expédiés dans le couloir de la mort. L'ADN n'était certes pas le Graal, mais grâce à des organisations comme Transparency, de nombreuses personnes injustement condamnées dormaient désormais chez elles et plus entre les quatre murs d'une cellule. Bonjour, Monsieur Barthélémy. Mais Soo-yoon referma la porte derrière elle. Âgée d'une quarantaine d'années, elle avait une démarche rigide et altière qui contrastait avec sa tenue décontractée. Jean clair, veste en velours couleur canard brodée de l'écusson de la fac, paire d'Adidas superstar usée. Ses cheveux d'un noir éclatant étaient la première chose que l'on remarquait chez elle. Entortillé autour d'une baguette turquoise, il formait un chignon qui lui conférait une sorte de distinction patricienne. Merci d'avoir accepté de me recevoir rapidement. Elle prit place devant moi et posa sur le bureau une pile de dossiers qu'elle transportait sous le bras, ainsi qu'un de mes romans, traduit en coréen. « Il appartient à ma belle-sœur », expliqua-t-elle en me le tendant. « Vos livres sont très populaires en Corée. Elle serait ravie que vous le lui dédicaciez. Elle s'appelle Lee Yo-jung. » Tandis que je m'acquittais de cette tâche, elle me confia. « Je me souviens très bien de l'affaire Carlyle, pour la bonne raison que c'est l'une des premières dont je me sois occupé avant de quitter la police. » « Justement, pourquoi être passé de l'autre côté de la barrière ?» demandai-je en lui rendant le roman. Un sourcil frémit sur son beau visage très maquillé. « De l'autre côté de la barrière ?»« Votre expression est à la fois juste et erronée. Fondamentalement, je fais le même métier. J'enquête, je décortique des comptes rendus d'interrogatoire, je revisite des scènes de crime, je retrouve des témoins, sauf que vous cherchez à faire sortir des gens de prison au lieu de les y enfermer. » « Je cherche toujours à faire en sorte que justice soit rendue. » Je sentais que Mae Soo-yoon était sur ses gardes et qu'elle avançait des formules toutes faites pour se protéger. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je pris mon expression la plus avenante et essayai de lui poser une autre question sur son travail, mais elle me fit comprendre que son temps était précieux. « Que voulez-vous savoir sur l'affaire Carlyle ?» Je lui montrai le dossier que m'avait remis Gladys. « Comment avez-vous eu ça ? » s'exclama-t-elle en tournant les pages. De la manière la plus honnête qui soit, c'est un dossier que la famille de la victime a obtenu suite à un cafouillage de l'enquête. « Il n'y a pas eu de cafouillage de l'enquête », répondit-elle, touchée dans sa susceptibilité. « Vous avez raison. Disons alors un cafouillage entre des informations communiquées au 911 et la constatation des premiers policiers arrivés sur place. » « Oui, je me souviens de cet épisode. » Ses yeux étaient devenus noirs. Elle survolait le dossier, cherchant manifestement des pièces qui ne s'y trouvaient pas. « Seuls des extraits ont été communiqués à la famille, précisai-je. »« C'est ce que je vois ?» Je pris 10 minutes pour lui expliquer mes récentes découvertes. L'achat par Joyce d'un téléphone portable prépayé, quelques jours avant sa mort. Son lien avec la journaliste Florence Gallo, dont l'appartement se situait à l'endroit d'où avait été passé l'appel de détresse. Enfin, je lui fis part de mon hypothèse, selon laquelle Joyce avait été tuée dans la maison de ses sœurs, avant que son corps ne soit rapatrié dans sa salle de bain. L'ancienne flic resta silencieuse pendant tout mon exposé. Mais au fur et à mesure que j'avançais mes pions, je la voyais se décomposer, comme si elle allait tomber à la renverse. Si ce que vous me dites est vrai, cela signifie que le dossier a été classé trop rapidement, mais à l'époque, nous n'avions pas toutes ces informations, reconnut-elle lorsque j'eus terminé. Elle plissa les yeux et me prit à témoin. Le coroner lui-même a conclu à une overdose tristement banale, malgré cet appel troublant. Son visage était blanc comme un linge. À nouveau, elle baissa la tête et fixa les feuilles étalées devant elle. J'eus alors une intuition. « Madame, y avait-il autre chose d'important dans le dossier ? Quelque chose qui ne figure pas ici ?» Mae Soo-yoon regarda par la fenêtre. Les yeux dans le vague, elle s'interrogea. « Pourquoi vous intéressez-vous à cette enquête vieille de plus de 10 ans ?»«
Ça, je ne peux pas vous le dire. » »«
Alors je ne peux pas vous aider. » Pris d'un accès de colère, j'avançai mon visage à quelques centimètres du sien et j'élevai la voix.
Non seulement vous allez m'aider, mais vous allez le faire tout de suite. Parce que vous avez gravement merdé il y a 10 ans. Et parce que vos beaux discours sur la justice ne peuvent pas se contenter d'être des incantations.
3. Effrayé, Mae So-yoon recula et me regarda comme si j'étais un psychopathe. Au moins, à présent, la glace était rompue. Pendant quelques secondes, elle ferma les yeux et je fus bien en peine de savoir ce qui allait suivre. Allait-elle sortir un wando de son sac pour me trancher la tête? Au lieu de ça, elle finit par me faire remarquer. « Votre théorie ne nous dit toujours pas qui a assassiné Joyce.
C'est pour ça que j'ai besoin de vous. »
« Quel est votre suspect? Une des sœurs de Joyce ?»«
J'en sais rien. Je voudrais juste découvrir s'il y avait quelque chose d'utile dans le reste du dossier.
« Rien qui soit exploitable devant un tribunal, »
assura-t-elle.
« Vous ne répondez pas à ma question. » « Je vais vous raconter une histoire, monsieur Barthélémy. Vous qui êtes écrivain, elle devrait vous intéresser. » Il y avait un distributeur de boissons dans la pièce. Elle se leva, sortit de la monnaie de la poche de son jean et prit une canette de thé matcha. « À la base, j'ai une formation scientifique, » raconta-t-elle en s'adossant à la machine. « Mais j'ai toujours voulu me confronter au terrain et à la vie des gens dans ce qu'elle a de plus concret. » Après mon PhD en biologie, j'ai donc passé mon concours d'entrée au New York City Police Department. Au début, j'aimais ce métier et j'y réussissais plutôt bien. Mais tout s'est déréglé en 2004.
Elle but une gorgée de thé vert et poursuivit.
À l'époque, j'étais affecté au 52e Precinct, celui de Bedford Park, dans le Bronx. À quelques jours d'intervalle, j'ai enquêté sur deux affaires qui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Un homme qui s'introduisait chez ses victimes, des jeunes femmes, les violait et les torturait avant de les achever. Deux affaires aussi atroces que sordides, mais en apparence faciles à résoudre, puisque le tueur avait abandonné quantité de traces génétiques, chewing-gum, mégots, poils, ongles. Cerise sur le gâteau, le type était fiché au CODIS, la base de données de profil génétique du FBI.
« Donc vous avez coffré l'assassin ?»
Elle hocha la tête.
« Oui,
dès qu'on a eu les premiers résultats des analyses. Il s'appelait Eugene Jackson, un jeune noir de 22 ans, étudiant dans une école de design. » Homo, timide, visiblement intelligent. Il s'était retrouvé dans le fichier après une condamnation pour exhibitionnisme 3 ans plus tôt. Un pari avec des potes qui avaient dégénéré, avait-il plaidé à l'époque. Un truc pas très méchant, mais pour lequel il avait été condamné à un suivi psychiatrique. Pendant son interrogatoire, Eugène a nié les viols et les meurtres, mais ses alibis étaient flous et surtout son ADN l'enfonçait. C'était un gamin fragile. Dans la semaine qui a suivi son incarcération à Rikers, il s'est fait massacrer par ses co-détenus. Transféré à l'hôpital de la prison, il s'est pendu, avant même la tenue de son procès. Long silence. Mae soupira et revint s'asseoir en face de moi. À voir son visage défait, je devinais que le plus pénible restait à venir. Certains souvenirs sont comme un cancer. Une rémission n'est pas toujours une guérison. Un an plus tard, j'avais quitté le Bronx. Mais il y a eu d'autres affaires de ce type. Des jeunes femmes violées et torturées avant d'être exécutées. Chaque fois, l'assassin était fiché et nous faisait cadeau de ses traces génétiques. L'enquêteur qui m'avait succédé a trouvé ça un peu trop facile et il avait raison. Le diable qui se cachait derrière ces monstruosités s'appelait André de Valat.
Je n'en ai jamais entendu parler.
Les criminologues et la presse l'ont surnommé le voleur d'ADN. C'était un infirmier canadien qui travaillait dans une structure médicale dans laquelle étaient suivis les délinquants sexuels. Notamment ceux dont il collectait méthodiquement les traces génétiques afin de les déposer sur les lieux des crimes qu'il perpétrait. André de Valat est un tueur en série unique en son genre. Ses véritables victimes, ce n'étaient pas seulement les malheureuses jeunes femmes qu'il tuait, mais aussi les hommes qu'il faisait accuser à sa place et dont il brisait la vie. C'était ça son vrai trip.
J'étais scotché par le récit de l'ancienne flic. Cette histoire était digne d'un scénario de polar. Mais je ne voyais pas en quoi elle avait un rapport avec l'assassinat de Joyce.
C'est à cause de moi que Jane s'est suicidée,
se lamenta l'Asiatique.
Ça fait 12 ans que j'ai sa mort sur la conscience, et il m'est insupportable de savoir que je suis tombé dans le piège tendu par Valat.
Qu'est-ce que vous essayez de me dire, May?
Que l'ADN est la meilleure et la pire des choses, et que contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas une preuve en soi.
En quoi cela concerne-t-il, Joyce?
Il y avait une trace d'ADN sur la scène de crime.
M'avoua-t-elle en accrochant mon regard.
Un instant, le temps se figea.
Nous y étions enfin.
Une trace? Autre que celle de Joyce ou de ses sœurs?
Oui.
Une trace de qui, alors?
Je ne sais pas.
Comment ça, vous ne savez pas? Pourquoi vous ne l'avez pas exploité à l'époque?
Parce que je sortais tout juste de l'affaire Valat. J'étais dans une position fragile et aucun tribunal ne m'aurait suivi sur cette unique preuve.
Pourquoi?
Quelque chose m'échappait. Mais Soyoun louvoyait et ne me disait pas tout.
Pour le comprendre, il faudrait que vous lisiez vous-même le dossier complet de l'enquête.
Comment puis-je l'obtenir?
Vous ne pouvez pas. Et de toute façon, 10 ans après, tous les scellés ont été détruits.
Les scellés peut-être, mais le dossier existe encore quelque part dans les archives du NYPD, n'est-ce pas?
Elle approuva de la tête.
Aidez-moi à le récupérer. J'ai lu des articles sur Transparency. Je sais qu'au sein même de la police, y compris parmi de hauts gradés, vous avez des indicateurs anonymes qui vous renseignent sur certaines dérives.
Elle secoua la tête.
Vous ne savez pas ce que vous dites.
J'y allais un peu au bluff.
Des flics qui vous aident parce qu'ils ont honte d'appartenir à une institution en laquelle les citoyens n'ont plus confiance. Une institution brutale et excessive avec les faibles. Une institution qui, pour faire du chiffre, cible toujours les mêmes communautés. Une institution qui a du sang sur les mains, mais qui bénéficie pourtant d'une impunité presque totale. Une institution qui...
Elle interrompit mon anaphore.
D'accord, arrêtez, je vais essayer de contacter quelqu'un qui vous trouvera le dossier.
Merci.
Ne me remerciez pas.
Et ne vous faites surtout pas une fausse joie. Quand vous comprendrez pourquoi je n'ai rien pu faire à l'époque, vous réaliserez que vous avez perdu votre temps. Et vous n'en éprouverez que de l'aigreur.